Le 19 août dernier, Éric Goudreau, qui est devenu proche aidant de ses parents, a traversé le Saint-Laurent, le fleuve Saint-Laurent, dans le but de faire connaître l'Association des personnes proches aidantes de sa région. Et sa région, c'est Bécancour-Nicolette-Yamaska. D'ailleurs, mon collègue Denis Martin Chabot s'était entretenu avec lui. Et puis aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec la coordonnatrice de l'Association des personnes proches aidantes de la région, Bécancour-Nicolette-Yamaska. Il s'agit de Véronique Merger. Bonjour, Madame Merger.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Est-ce que vous êtes présentement à Bécancour?
Oui.
OK. Oui. Et vous êtes née en Belgique, si je ne m'abuse.
Oui, effectivement. Je suis arrivée ici à l'adolescence avec mes parents. D'accord. Il y a de cela 40 ans.
Ah oui, qu'est-ce qui vous a amené au Québec?
La crise économique qui se vivait en Europe, sur un coup de tête, mon père a décidé qu'on déménageait. On s'en allait au Canada.
Et vous n'êtes pas arrivée à Bécancour tout de suite?
Non. On est arrivé dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au départ. Et ensuite, moi, j'ai déménagé dans la région de la Mauricie, qui est la région collée sur Bécancour, dans le fond. Là. Mm-hmm. Fait que je suis arrivée après, quand je me suis mariée, j'ai déménagé dans la région ici.
Et vous êtes...
Et je suis dans la région depuis de nombreuses années maintenant.
Oui. Ben, j'imagine que vous êtes heureuse dans cette région.
Effectivement.
Vous êtes devenue proche aidante un jour et comment c'est arrivé, Madame Merger?
Ben moi, je suis devenue proche aidante de ma mère au départ, qui a eu un diagnostic d'un cancer et qui, quand elle a eu son diagnostic, on était déjà dans un diagnostic de phase terminale. Donc, j'ai fait le choix à cette époque-là d'arrêter de travailler pour prendre soin d'elle chez nous. Elle est venue rester chez moi et elle est décédée chez moi, dans le fond, quelques mois plus tard. Donc, ça a été ma première expérience comme proche aidante. Par la suite, je me suis rendu compte que, dans le fond, ma mère elle-même avait été proche aidante pour mon père, qui avait eu la sclérose en plaques.
Ah oui.
Et donc, qui s'est épuisée comme proche aidante. C'est nous, à un moment donné, les enfants qui avons dû dire « c'est assez, là, c'est parce que c'est toi qui vas partir avant lui.
Ouais. »
Fait que c'est non, fait que c'est nous qui avons dû décider que mon père serait placé. Parce que ma mère, comme proche aidante, n'arrivait pas à prendre cette décision-là. Elle travaillait, elle s'occupait de mon père, qui était très exigeant parce qu'il n'acceptait aucunement sa maladie et tout ça. Donc, il vivait lui-même ses propres déceptions et c'était difficile pour ma mère. Donc, je me suis rendu compte que la proche aidance avait déjà fait partie de ma vie avant que je prenne soin de ma mère.
Est-ce que votre père est toujours en vie?
Non, mon père est décédé il y a plus de 30 ans. Là.
Et c'est votre expérience qui vous a incité à travailler comme coordonnatrice de l'Association des personnes proches aidantes de la région Bécancour-Nicolette-Yamaska?
Oui, effectivement. C'est suite à ça que je me suis dit, moi, je travaillais dans un autre domaine. Je travaillais en violence conjugale auprès des femmes victimes de violence conjugale. Et j'avais le goût de changer de milieu un peu. Puis j'ai fait... c'est ça qui me tente parce qu'effectivement, moi-même, quand j'étais proche aidante, on m'a offert des services, puis je dis « Oh, non, c'est correct, j'ai pas besoin, ça va. » Et là, j'ai fait « Non, je pense qu'on peut en avoir besoin. » Fait que j'avais le goût de pouvoir développer les services à ce niveau-là dans la région de Bécancour, Nicolette-Yamaska.
Et dans la mission de l'association, est-ce qu'il y a justement place à l'information, à la sensibilisation aux personnes proches aidantes qui pensent qu'elles ne sont pas des proches aidants?
Ben oui, c'est une partie de notre travail, effectivement, parce que très peu de proches aidants se reconnaissent comme proches aidants.
Pourquoi vous pensez? Parce que ils trouvent que c'est naturel de s'occuper justement de leurs parents, de leur mère, leur soeur, leur frère, etc.?
Oui, effectivement. Puis pour les parents qui ont un enfant à besoins particuliers, ben c'est pour eux autres aussi, c'est normal, c'est ça être parent, prendre soin de nos enfants, être là pour eux. Fait que les gens font mais c'est normal, c'est mes parents ont pris soin de moi, fait que je vais prendre soin d'eux. C'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon ami. Donc les gens ont comme l'impression aussi que si je suis proche aidant, je suis plus l'ami, je suis plus la soeur, je suis plus l'enfant. Fait que nous, ce qu'on dit, c'est non, c'est que la proche aidant, c'est juste un rôle qui s'ajoute aux autres rôles dans la vie. On reste l'enfant, le parent, l'ami, le frère, la sœur de la personne qu'on aide, mais on est aussi en plus proche aidant.
Est-ce que c'est pour ça que le terme ou l'expression aidant naturel a été mis de côté pour nommer autrement le phénomène ou la chose, cette réalité-là de proche aidance?
Ben oui, effectivement, il y a plusieurs années, on parlait d'aidant naturel, puis on disait, ben c'est parce que c'est pas vrai que c'est naturel ouais. d'être aidant tant que ça. Et l'autre aspect, c'est aussi parce que quand on dit que c'est des aidants naturels, ben si c'est naturel, ça veut dire qu'on doit être capable tout seul, puis si on a besoin d'aide, c'est peut-être parce qu'on n'est pas bon ou pas bonne. Fait que là, on disait, c'est assez négatif comme terme, fait qu'on se dit, ben c'est des proches aidants, c'est des gens qui sont proches, qui avaient une relation avec la personne avant, au départ, et qui deviennent aidantes pour cette personne-là. Donc, c'est pas vrai que c'est naturel, puis oui, comme proche aidant, on peut avoir besoin d'aide, d'information, de support, de soutien à travers ça, parce que c'est pas toujours facile pour les proches aidants non plus, là. Fait que c'est pour ça qu'effectivement le terme a été changé parce que c'était un petit peu négatif comme terme. Là.
Ouais. Et c'était surtout, c'était négatif et c'était pas la réalité non plus. Parlez-nous des services que vous offrez aux personnes proches aidantes.
Ben notre rôle dans le fond, c'est d'être là. Bon, oui, il y a l'aspect sensibilisation auprès du public, auprès des gens et tout ça, mais il y a aussi tout l'aspect de soutien auprès des personnes proches aidantes, que ce soit par des services individuels, d'intervention psychosociale, de programmes de gestion de stress, parce que bon, les proches aidants sont un peu plus stressés que le reste de la population, que ce soit de l'accompagnement dans des démarches, peu importe les démarches, que ce soit pour avoir de l'information, de la formation aussi, des conférences. Dans le fond, on offre un petit peu tout ça. L'objectif, c'est de permettre aux proches aidants, dans le fond, de pouvoir garder un équilibre à travers tout ça, puis de pouvoir avoir une place où il y a des intervenants qui sont là pour eux. Parce que dans notre système, souvent, quand il y a le système de santé ou services sociaux est là, c'est souvent pour la personne aidée qu'il y a des services, mais l'aidant, lui, on le prend beaucoup pour acquis. Comme quoi que ben il est là, puis il va aller faire les services, il va faire les choses, mais lui, on a tendance à l'oublier un petit peu. Ouais. Fait que nous, dans le fond, notre rôle, c'est vraiment complémentaire au réseau de la santé, des services sociaux, c'est public, c'est d'être là vraiment pour les proches aidants, pour leur permettre de comment ils vont faire pour prendre soin d'eux, comment pouvoir des fois dire des choses qu'ils n'osent pas dire parce qu'ils ont peur du jugement qu'ils peuvent avoir au travers de ça. Comment gérer le stress, comment est-ce qu'on est rendu à prendre des décisions de changement d'hébergement? Est-ce que bon, il y a toutes sortes de choses comme ça, des accompagnements pour des crédits d'impôt, j'ai-tu droit, pas droit, c'est quoi les démarches, c'est quoi les affaires?
Vous êtes en quelque sorte les proches aidants des proches aidants.
Oui, c'est ça.
Oui.
Et ça ressemble à ça.
Est-ce que vous desservez plusieurs, parce que votre territoire est vaste, il faut être membre pour faire partie de votre association, vous comptez combien de membres au sein de votre organisme?
Bien, on compte un peu plus de 260 membres annuellement, là, parce qu'à tous les ans, les gens doivent renouveler, fait que il y en a des nouveaux, puis il y en a qui quittent, là, c'est un peu normal. Mais dans le fond, pour avoir les services, les gens ne sont pas obligés d'être membres pour avoir les services comme tels. Puis nos services sont gratuits, mais c'est sûr que quand ils sont membres, en plus, bien, ils reçoivent une infolettre à tous les mois avec toutes les activités, les conférences et tout ça qui se donnent, là, fait qu'ils ont toute l'information. C'est plus facile. Puis ça ne coûte rien en plus d'être membre. Fait que là, on leur dit que...
Et vous refusez personne?
Non, on refuse personne parce que nous, on est là, dans le fond, pour tout proche aidant, que ce soit un parent d'enfant de besoin particulier, que ce soit pour un frère, une sœur qui est handicap, qui est suite à un accident, pour nous, peu importe l'âge de la personne aidée et peu importe la raison pour laquelle avoir des incapacités ou des limitations, là. Puis que ces limitations-là soient temporaires ou permanentes. Ça peut être suite à un accident, une maladie, vieillissement, handicap, peu importe. Puis la personne n'est pas obligée de demeurer avec la personne proche aidante non plus, parce que ça, il y a eu beaucoup de... On dit, ah, un proche aidant, c'est quelqu'un qui prend soin de son parent âgé, puis qui vit avec, puis qui fait du 24/7. Là. Ça, c'est beaucoup la façon dont on voyait les proches aidants aussi.
Mais alerte vraiment, rouge dans ce moment, à ce moment-là?
Oui, c'est parce que d'habitude, à ce moment-là, ils sont proches aidants depuis longtemps. Là. Ça, ouais. Ça fait déjà un petit bout, là. Mais on n'est pas obligé de demeurer avec la personne. Il y en a plusieurs qui nous disent, ah, ben, tu sais, moi, je suis plus proche aidante pour ma mère, elle est placée. OK, fait que là, on souvent leur disait, ben, OK, vous prenez plus soin de la personne, vous vous inquiétez plus pour elle, vous voyez plus assez soin, vous payez plus la fin, vous faites plus de commission pour elle. Oui, mais je fais tout ça encore, là. Mais vous êtes encore proche aidant. C'est juste que ça vous prend un peu moins de temps. Mais le souci, l'autre, la charge mentale de voir à ce que tout soit correct est encore là quand même. Là.
Oui, le spectre est vaste.
Oui. Oui, oui, c'est très vaste parce que ça va aussi bien effectivement d'un parent qui dit ah, ben là j'ai mon enfant puis là c'est difficile au niveau scolaire de faire voir les affaires, d'amener les choses, ben on va accompagner là aussi, on peut les supporter puis comme parent, c'est il y a des choses qui sont communes à tous les proches aidants puis il y a des choses qui sont différentes aussi parce que bon, si je suis un parent d'un enfant, ben ça va être aussi, mais quand moi je pourrai plus en prendre charge, ça va être qui va le faire. Tandis que si je suis proche aidante pour mon parent vieillissant, je me doute que mon parent va décéder avant moi, normalement, là, dans l'ordre naturel de la vie. Là. Fait qu'il y a certaines choses comme ça qui sont différentes, mais la culpabilité, l'épuisement, l'isolement social, la charge mentale, tous les proches aidants vivent ça. Là. C'est comme ça, c'est un peu importe, on est proche aidant de qui, là. Puis l'âge qu'on a, on entend toujours à peu près les mêmes discours. Ouais, mais moi, c'est pas si pire, il y en a d'autres qui ont plus besoin. Ça, c'est des classiques là, pour nous autres. Là. On est habitués à ça. Là. Ils veulent pas déranger non plus.
Non, c'est vrai. Puis ils devraient déranger plus qu'ils le font. Oui, parce qu'ils ont peur de demander de l'aide finalement.
Oui, puis c'est parce que c'est pas facile non plus pour tout le monde de se dire j'ai besoin d'aide, c'est pas facile parce que souvent on nous a pas appris à faire ça de façon naturelle. On nous dit ben, quand on n'est plus capable, on demande de l'aide.
C'est comme un constat d'échec.
Oui, c'est ça. Tandis que nous, on dit, écoutez, si vous venez chercher de l'information, des renseignements, puis de l'aide dès le début, ça va juste vous permettre de vous assurer de pouvoir remplir ce rôle-là de façon la plus harmonieuse possible et le plus longtemps possible. Parce que, justement, vous allez être mieux informé, vous allez avoir, si jamais, à un moment donné, il y a des questions ou des affaires que vous n'êtes pas sûr ou un besoin de parler de certaines choses, ben ça va déjà être là. Tandis que quand si on attend d'être au bout du rouleau, d'être épuisé, plus capable, ben c'est plus long à ce moment-là, puis c'est plus difficile. Puis, fait que nous, on dit aux gens, écoutez, allez chercher l'information dès le début.
Mais comment vous faites, Mme Merger, pour justement aller à la rencontre ou savoir qu'il y a une personne proche aidante qui a besoin d'aide mais qui lève pas de drapeau rouge. Comment vous les atteignez, ces personnes-là?
Ben, on essaye de faire des conférences dans les différentes municipalités autour de nous pour démystifier c'est quoi proche aidant, c'est quoi, puis les gens disent « Ah, mais j'en ai autour de moi », puis ben oui, qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux, puis il y en a qui se reconnaissent proche aidant aussi. Il y a aussi, bon, de la référence qui nous vient par les intervenants du CIUS, des choses comme ça, des fois par des médecins, et tout ça, nous, on essaye de sensibiliser les intervenants qui peuvent tourner autour de la vie de ces gens-là, que ce soit des pharmaciens, des médecins, des intervenants, des psychologues dans les écoles, et tout ça, pour leur écouter des proches aidants. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup au Québec. Là. Avant ça, c'était une personne sur quatre. Là, on est rendu, les dernières études nous disent, c'est une personne sur trois au Québec qui a été proche aidant ou qui est proche aidant depuis un an, dans la dernière année. Là.
Donc, c'est énorme.
C'est énorme, mais les gens disent « Oh non, ben, tu sais, je fais juste ça, puis c'est juste quelques heures. »
Ouais, ouais. Mais c'est oui, de la prochaine danse.
Oui, puis souvent, c'est que les heures finissent par être de plus en plus d'heures aussi, là. Fait que c'est un peu là. Puis de connaître les services qui existent aussi, qui peuvent des fois nous alléger. Puis on n'est pas obligé de tout faire comme proche aidant non plus. Il y a peut-être des affaires qu'on peut déléguer, qu'il y a d'autres mondes qui peuvent faire. Puis durant ce temps-là, moi, comme proche aidant, bien, je peux peut-être faire d'autres choses. C'est ça. Fait que c'est à force d'en parler, les gens qui ont eu nos services aussi, qui évidemment dépistent les proches aidants autour d'eux après. Fait que c'est ça. On travaille avec d'autres organismes aussi. On est à mettre en place présentement avec pour le Centre du Québec, avec les organismes qui travaillent auprès des personnes handicapées aussi, à dire, ben, est-ce qu'on va travailler ensemble pour aller rejoindre, dans le fond, l'entourage de ces personnes-là qui vont chez eux, mais dire, ben, il y en a des proches aidants autour de ces personnes-là aussi, fait que leur parler, qu'ils puissent reconnaître qu'ils ont ce rôle-là, dans le fond, qui s'ajoute dans leur vie, là, Puis c'est un beau rôle, là. C'est un rôle, moi, si c'était à recommencer, je le referais demain matin, là.
C'est Qu'est-ce très que ça vous a apporté de plus? Rôle.
Ben, je dirais c'est valorisant. On se sent utile à quelqu'un. Il y a aussi que la relation avec la personne qu'on aide est différente aussi. Souvent, au début, la relation va devenir plus profonde aussi parce que on est là pour prendre soin dans quelque chose qui est plus intime un peu, dans le sens où on est dans le quotidien de la personne un peu plus. C'est aussi ça nous ramène des fois c'est quoi l'essentiel dans la vie.
Ouais.
Ça nous ramène à ces réalités là aussi, puis dire ben et c'est pour ça que c'est important pour le après aussi. Nous, on est là aussi pour le après. Quand la personne aidée décède, le proche aidant, il vit un double deuil. Il vit le deuil de la personne, mais il vit aussi le deuil de son rôle d'aidant. Je deviens utile à qui? Et tout ce temps-là que je consacrais à la personne, tout d'un coup, j'en fais quoi? Donc, on est là pour après aussi, parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Là. Moi, quand j'ai arrêté de travailler pour prendre soin de ma mère, après, c'est OK, là...
Un grand vide.
Je tourne en rond, là, il y a un vide.
Ouais,
là,
ouais.
Donc, qu'est-ce que je fais?
Un deuil, un vide.
En question, c'est ça. Donc, c'est important aussi d'être là pour après. Parce que il y a un équilibre à remettre dans nos vies aussi. Là.
Oui, et pour que ça demeure justement un privilège, un cadeau, c'est bien de savoir se faire entourer, puis d'être capable de s'arrêter à un moment donné. Est-ce que vous donnez de l'information aussi aux personnes aidées, parce qu'il y a des personnes aidées qui peut-être tiennent pour acquis que la personne qui l'aide est là pour ça?
Bien, notre rôle n'est pas tant de travailler avec la personne aidée. Là, on va plus essayer de travailler à ce moment-là s'il y a un intervenant social au dossier. Un petit bout que vous pouvez faire là-dessus. On travaille en collaboration, mais oui, des fois, ça va arriver qu'on va aller à domicile chez les gens. Fait que des fois, la personne aidée est présente aussi. Fait qu'on lui fait voir aussi. Ça arrive des fois dire, mais vous savez, si vous voulez qu'elle prenne soin de vous longtemps, ben, il va falloir peut-être accepter des services. Il va peut-être falloir parce qu'elle peut pas tout faire. Autrement, elle va tomber aussi à un moment donné. Puis c'est pas ça que vous voulez, parce que si vous vous retrouvez à l'hôpital parce qu'elle est malade, je suis pas sûre que vous avez le goût de ça. Là. Fait que oui, des fois, on va le faire un petit peu, là, mais c'est plus pour aider la personne aidante, dans le fond, à ce que l'autre accepte des services et tout ça, mais il faut d'abord que la personne aidante accepte des services aussi, là, parce que ça, c'est pas toujours facile non plus. Là.
Et aujourd'hui, Mme Mergé, c'est la Journée internationale de l'Alzheimer. Quel conseil vous donneriez au proche aidant d'une personne qui vit avec cette maladie?
De se permettre d'aller chercher l'aide qui existe autour d'elle, d'aller se renseigner, parce que des fois, quand on a plus d'informations, on comprend mieux comment fonctionner, qu'est-ce qui est normal, pas normal, et tout ça, puis de se permettre de l'ouvrir avec les gens autour aussi, parce que souvent, on a tendance à garder ça un peu caché et de dire aux gens, ben regarde, ça se peut que j'ai besoin d'aide, ça se peut que j'aurais besoin, tu peux-tu me rendre service, tu peux-tu m'aider là-dessus? Demander aux gens autour de nous. Souvent, les gens n'osent pas nous le proposer parce qu'ils veulent pas nous froisser, puis nous, on n'ose pas demander parce qu'on veut pas les déranger. Fait que pour finir, il n'y a rien qui se fait. Fait que d'ouvrir puis de dire oui, j'ai besoin, oui, telle affaire, ça me ferait du bien, oui, telle chose, j'aimerais ça. Fait que aller chercher l'aide qui est autour de vous, c'est important. Là. C'est ce qui va vous permettre de passer au travers de façon positive aussi.
Véronique Mergé, coordonnatrice de l'Association des personnes proches aidantes de la région Bécancour-Nicolet Yamaska, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Ben merci à vous de m'avoir reçu puis d'avoir permis qu'on parle de la proche aidante.
C'est tout naturel. Au plaisir.
Merci.